Mona.
Alors Raymond, votre Napoléon D d'Alger est une uchronie. Alors pour nos auditeurs, vous voulez bien rappeler ce qu'est une uchronie ?
Alors une uchronie, on la voit dans le prologue, puisque dans le prologue qui commence en 1962, un nouvel écrivain qui s'appelle Albert Omar Camus reçoit Alger, reçoit un prestigieux prix littéraire pour un roman assez curieux, où il imagine qu'en 1815, Napoléon sur le Northumberland, qui l'emmène vers une île de l'Atlantique Sud dont tout le monde a oublié le nom, il imagine qu'il arrive dans cette île, où il meurt quelques années plus tard, relativement oublié. C'est une uchronie, puisque chacun sait que le convoi de Napoléon a été attaqué par des corsaires barbaresques, et Napoléon est arrivé à Alger, libéré par ses corsaires.
Voilà.
Bien sûr, c'est ça une uchronie.
Alors votre roman donc débute le 2 Safar 1382, d'après le calendrier égérien, soit pour notre calendrier habituel, le 5 juillet 1962. Alors qu'est-ce que le calendrier égérien, pour ceux qui ne le savent pas ?
Le calendrier égérien, c'est le calendrier utilisé dans les pays musulmans et qui commence au 6e siècle à l'Égir, c'est-à-dire le moment de la fuite de Mahomet de la Mecque.
Et donc, le calendrier égérien débute, lui, le 16 juillet 622. C'est pour ça que...
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, votre récit débute donc le 5 juillet 1962 par un article dans le journal de Moniteur, article signé par Michel Droit, où il parle de la fête qui va avoir lieu.
Oui. Alors, en 1962, donc, c'est le président Charles Ahmad Medbella qui était au pouvoir. André Malraux est ministre de la Culture, Giscard d'Estaing est ministre de l'Économie, Bouteflika est ministre, je crois, des Affaires étrangères, et on célèbre la victoire du général Marcel Omar Bijar sur les rebelles de Kabylie. Et donc il y a une cérémonie qui se déroule dans le palais des Tuileries, où le général est décoré, et où la foule entame ensuite l'hymne national, en arabe, je ne connais pas l'arabe, mais en fait, qui commence par, vous savez, allons enfants de la patrie, etc. Voilà. Et en même temps, c'est une grande victoire aussi pour le président Benbella, puisqu'il a scellé définitivement la réconciliation avec l'ennemi héréditaire, c'est-à-dire avec l'Angleterre.
Alors, vous n'avez peur de rien, parce que vous réécrivez toute l'histoire de France sur plus d'un siècle. Donc, ça recommence en 1815, en fait.
Oui, hein, et ça se termine en 1871, lors de la Semaine sanglante à Paris, où les royalistes qui ont pris le pouvoir sont massacrés par les républicains, aidés par les garibaldiens et par les colons algériens.
Parce que là, il faut quand même dire que l'épopée de Napoléon le fait redevenir un chef tout-puissant.
Oui, c'est-à-dire qu'arrivé à Alger, délivré par ces corsaires barbaresques, on pensait qu'il s'appelle toujours Napoléon, il ne va pas en rester là. Et le dé d'Alger est opportunément assassiné quelques temps plus tard, et Napoléon se dévoue pour la patrie et décide de prendre le pouvoir pour éviter que le pays tombe en déliquescence. Et voilà. Et curieusement, le même jour, le jour où il est délivré par ses corsaires, dans les Aurès, un jeune berger qui laissait paître ses troupeaux dans le désert découvre une inscription sur un monument, une inscription en latin, qui parle tout simplement de Timgad. Et intrigué par cette affaire, il va aller retrouver Napoléon à Al-Jazir, à Alger, et va lui révéler qu'une vieille légende arabe dans les Aurès dit que celui qui remettra au jour la ville de Timgad, la ville de Trajan, régnera à nouveau sur les deux rives de la Méditerranée. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, et ça donne des idées à Napoléon, en particulier 15 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe 15 ans plus tard? On est en 1830. Et qu'est-ce qui se passe en 1830? Bah si.
Bah bien sûr.
Et oui.
Vas-y,
je peux continuer. Oui.
Bah,
alors, en 1830, Charles X décide de lancer l'expédition d'Alger.
C'est moins connu dans l'histoire de France.
C'est moins connu, oui, parce que ça se termine en catastrophe.
Voilà.
Il faut dire que, ayant pris le pouvoir à Alger, Napoléon a rallié de nombreux anciens soldats des généraux, des militaires qui ne supportent pas le régime monarchique, et il a reconstitué une armée, en particulier une flotte puissante à Alger. Donc l'expédition d'Alger se termine en catastrophe, oui. Avec le ralliement d'ailleurs d'un grand nombre de soldats à Napoléon. Oui. Et l'année suivante, eh bien, évidemment, il débarque en France.
Ben oui. Bis repetita, il débarque à Marseille.
Pour la deuxième fois, cette fois-ci, ça marche.
Oui, c'est ça. Alors, vous faites un joyeux brassage entre personnages réels et personnages de romans. Vous prenez vos aises avec les personnages historiques et vous faites apparaître des personnages de romans célèbres dans votre histoire, comme Jean Mauzan qui est en fait Jean Valjean.
Oui.
Éponine qui est Cosette.
Oui, oui, oui.
Hein ? Ça vous amuse bien ?
Ça m'a beaucoup amusé de jouer avec la littérature, parce qu'en plus de l'Uchronie, il y a un jeu, c'est-à-dire que il y a un personnage qui joue un rôle incertainement, qui s'appelle Hector Bianchon, mmh. qui est connu parce qu'il était le médecin particulier de Balzac, et qui va être amené à soigner également Napoléon et qui l'amènera à survivre jusqu'en 1840. Mais cet Hervé Bianchon, Balzac l'a utilisé indûment dans ses romans pour faire un de ses personnages. Et il en est de même de Victor Hugo, qui a pris des héros comme Georges Pontmercy, le général de l'artillerie de Napoléon, mmh. et en est fait un misérable qui survit après la bataille de Waterloo. Mmh. Donc c'est tous ces écrivains célèbres qui n'ont pas hésité à abuser, à user de héros et de personnages réels pour en faire des personnages de leurs romans. Mmh. Ça aussi, c'est un aspect un peu chronique.
Oui, c'est vrai. Alors votre roman est foisonnant de personnages secondaires soignés, mais en plus vous créez tout un univers qui rend le roman crédible. Loi, mœurs, littérature, musique, peinture. Ça a demandé un travail considérable de...
Oui, bien sûr. Le tout, c'est d'assurer la cohérence. C'est-à-dire que l'Uchronie, c'est un travail de faussaire. Mm. Un faussaire, pour être cru, il faut qu'il y ait quand même des éléments de vérité. Mmh. Donc, on ne peut pas raconter n'importe quoi, que Napoléon a été délivré par des extraterrestres ou des choses comme ça. Il faut rester proche de l'histoire. Et ça doit amener quelquefois le lecteur à se demander, à se frotter les yeux et à se demander si, comme on dit en Lorraine, si c'est du lard ou du cochon et quelle est exactement la vérité. Et il faut garder quand même un cadre géopolitique cohérent. Ainsi, par exemple, le fait que Napoléon épouse la fille du sultan Mahmoud II et conçoive une alliance de revers contre l'Autriche est parfaitement cohérent.
Mmh. Alors, à la lecture de votre roman, on sent nettement que vous vous êtes bien amusé. C'est drôle, enlevé, moi je trouve. J'ai beaucoup aimé. Cependant, il doit falloir un certain temps de préparation et de recherche historique. Vous travaillez comment pour ne pas mélanger, pour prendre les faits historiques et les transformer ?
J'ai toujours eu beaucoup d'attrait pour l'histoire. Napoléon n'est pas mon personnage préféré, hein, je le dis tout de suite. Mais j'ai réussi, Internet aide beaucoup, et Wikipédia aussi, hein, parce que plutôt que d'aller dans une bibliothèque pour lire un ouvrage de 400 pages pour en tirer une anecdote, dans Wikipédia on trouve quand même pas mal de choses. Mm-hmm. On extrapole souvent à partir de là. Mais j'ai retrouvé quand même, sur Internet, par exemple, des choses qui sont peut-être difficiles à trouver dans le public, des livres qui parlent de la régence d'Alger, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'Algérie, à la fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe. Donc je me suis servi beaucoup de ça, notamment pour les descriptions d'Alger.
Oui, oui, bien sûr. Alors comment vous faites pour ne pas vous tromper entre vérité historique et vos affabulations, en fait ?
Quelquefois, je suis obligé de me relire pour être sûr pour être sûr de savoir où je suis. Quelquefois, alors je fais des fiches, je compose l'histoire par séquences. Il y a une cinquantaine de séquences où en quelques lignes je décris ce qui se passe exactement, et ensuite je les ordonne dans le cadre chronologique du roman. Et je fais des fiches sur les personnages, autant les personnages historiques que les personnages imaginaires. Les personnages imaginaires jouent un grand rôle dans cette histoire. Mm-hmm. Notamment un certain Samir Mansouri, vous êtes...
Oui, bien sûr.
Samir Mansouri, c'est un... Alors, là aussi, c'est proche de l'histoire. Beaucoup de chefs de pirates barbaresques étaient souvent des repentis, ce que les chrétiens appelaient des renégats, c'est-à-dire des gens qui avaient été capturés par les barbaresques et qui s'étaient convertis à l'islam et qui étaient rentrés dans le circuit, qui sont devenus chefs de guerre, capitaines de bateaux, pirates aussi à cette époque-là. Et c'est le cas de Samir Mansouri, c'est un Nîmois qui a été capturé et qui ensuite a réussi en se convertissant à l'islam, est rentré dans le circuit et est devenu un général de Napoléon. et c'est lui qui délivrera Napoléon au large de Madère, sur le Northumberland. Et Napoléon découvrira curieusement que ce Samir Mansouri, c'est Dunant. Dunant, tout le monde le connaît. Oui. C'était son cuisinier pendant les batailles d'Italie, celui qui a inventé le poulet maringot. Oui. Et sur ses vieux jours, eh bien, Samir Mansouri ouvrira un restaurant à Alger, qui s'appellera le Maringot, évidemment. Mais quand il disparaîtra, il apportera avec lui, dans la tombe, la recette du poulet maringot. Voilà. Et on la recherche toujours.
Alors Raymond, vous êtes un iconoclaste. Hein. Transformer notre pays en Alfrance et déplacer la capitale à Alger, quand même, il faut oser. Vous n'avez pas peur des retombées de la part de vos lecteurs, parce que quand même...
Ben, ça dépend lesquels, mais oui, parce que Napoléon construit un État uni qui s'appelle Alfrance, contraction d'Algérie et de France, et il fait inscrire sur l'Arc de Triomphe le slogan, enfin la devise suivante, la Méditerranée traverse l'Alfrance comme la Seine traverse Paris. Et c'était un des slogans à l'époque de l'Algérie française, mais qui ici est complètement détourné.
Alors vous osez tout dans ce roman. Vous abolissez la papauté.
Oui, comme ça au passage.
Oui, comme bon, ça. Bon, il y a quelques curés quand même qui s'arrangent bien avec donc les mariages mixtes. Hein.
Oui,
à l'origine, on veut pas les faire, mais quand il y a un peu de financement derrière.
Oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire que vous voulez parler de la polygamie.
Oui.
Ah oui, donc la polygamie est légalisée. Elle n'a pas tellement de succès du côté sur la rive nord, c'est-à-dire dans l'ancienne France. Elle est souvent le cas de gens qui en profitent pour régulariser leur maîtresse et les amener chez elle en compagnie de l'épouse légitime. Ça se termine souvent très mal parce qu'il faut assumer. Et combien de crises cardiaques, d'AVC au matin, bon, vous voyez, ce genre. Et par contre, paradoxalement, les mouvements féministes de cette époque ont profité de cette légalisation de la polygamie pour demander la polyandrie, évidemment. Et c'était le cas de Georges Sand, oui, qui a pu ainsi épouser épouser Musset et Chopin. Et cette collaboration a donné lieu à un chef-d'œuvre, oui, un chef-d'œuvre de la musique, un opéra, oui. La Parisienne à Aljazaïr.
Ah, bien sûr.
Et ça continue.
Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de mariages mixtes parce qu'il y a encore des catholiques et il y a plein de musulmans. Donc ces mariages mixtes, il y en a qui refusent le mariage s'ils ne passent pas par l'église, oui. Notamment quand c'est un mariage avec...
Alors ce sera le cas, Napoléon mort en 1840 quand même. Il faudra parler de sa mort aussi, elle est assez édifiante. Et oui, lui succède son neveu Louis-Napoléon, sous le nom de Napoléon Selim, puisque Napoléon Ier avait pris le nom de Napoléon Soleiman, en hommage au sultan de Constantinople. Et ce Louis-Napoléon, qui passait ses vacances à Biarritz, est tombé amoureux d'une Espagnole, Eugénie Montijo. Il veut l'épouser, mais déjà, il est déjà marié à la fille du bey de Roanne. Et puis la maman, l'Espagnole, pas question d'épouser un musulman, pas question que ma fille soit bigame, enfin que mon gendre soit bigame. Mais ça finit par s'arranger à Saint-Jean-de-Luz, le curé qui a besoin d'argent leur fait un petit mariage en catimini. Louis-Napoléon répudie son épouse musulmane et ce sera le début de la catastrophe.
Oui, c'est ça. Oui. Alors c'est jubilatoire de bouleverser plus d'un siècle d'histoire comme ça.
Ah oui, on s'amuse, je m'amuse beaucoup, j'espère que les lecteurs s'amuseront aussi.
Oui, parce qu'il n'y a pas que l'histoire de France, vous élargissez, parce qu'automatiquement ça a des répercussions sur l'Autriche, sur l'Angleterre, sur...
C'est l'Uchronie, c'est un petit peu comme le caillou qu'on jette dans l'eau, ça fait des vagues, et ça se répercute jusqu'à un certain point, tout dépend de la taille du caillou. Quoi.
Oui, oui.
Là, le caillou est un peu gros quand même. Alors... il y a l'histoire de la papauté, l'histoire de la rivalité avec l'Angleterre. Il y a la Bavière qui intervient aussi là-dedans, puisque une fille de Napoléon épousera le roi de Bavière. Ça a des conséquences importantes, notamment sur les relations avec l'Angleterre, qui demeureront tendues jusqu'en 1962, jusqu'à la paix.
Mmh. Alors pourquoi avoir choisi cette période plus particulièrement ?
Parce que je pense que... Bon, j'avais écrit quelques années auparavant une nouvelle sur Napoléon, dans un cadre uchronique, justement, c'était une demande d'un éditeur qui, pour l'année Napoléon, voulait produire un recueil de nouvelles uchroniques sur Napoléon. Donc j'avais écrit une nouvelle uchronique sur Napoléon. C'était beaucoup moins glorieux parce qu'il il sauvait Robespierre en Thermidor. Et Robespierre, qui n'aimait pas trop les militaires, l'avait exilé, enfin l'avait relégué comme gouverneur de la Corse. Parce qu'il considérait que, pour les impôts, tout ça, le mouton ne gêne pas quand il est tendu par 100 mètres. Et Napoléon finira bêtement, en réfugié dans les jupons de sa mère, il finira bêtement en 1821. Mmh. Alors que là, il mourra en 1840, ce qui est quand même autre chose. Et il mourra dans un petit village de Lot-et-Garonne qui s'appelle Verteuil-d'Agenais. Donc maintenant, tout le monde, dans le monde entier, quand on parle de la mort de Napoléon, Verteuil, oui, c'est connu. Alors, qu'allait-il faire là-bas? Eh bien, je continue. Oui. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il est venu en France, il a échappé à un attentat fomenté par les royalistes, par les légitimistes. Et il en a éprouvé une haine farouche contre ces gens-là. Et il a éjecté tous les propriétaires terriens, monarchistes de France, et il les a fait remplacer par des colons venus d'Algérie. Et c'est le jeune berger dont on a parlé tout à l'heure qui avait découvert Timgad, qui se verra, il s'appelle Bachir Benflis, il viendra avec sa famille occuper à Verteuil-d'Agenais le domaine de Roquemart qui a été laissé libre par le baron de Gercourt qui a émigré en Angleterre. Alors, on a vu ça, on a pu éprouver une certaine appréhension. Comment ce berger, enfin ce personnage, va être accueilli par les indigènes du village de Verteuil? Eh bien, finalement, il est assez diplomate. Il réussit à se faire admettre, y compris du curé d'ailleurs. Et d'ailleurs, il épousera une jeune fille du village et il arrivera à faire sa messe de mariage dans l'église de Verteuil. Et donc, Napoléon, qui a gardé beaucoup de reconnaissance à ce berger, qui voit qu'il a guidé son destin finalement avec l'histoire de la légende de Timgad, viendra en 1840 à Verteuil et c'est là qu'il mourra.
Voilà. Alors le temps passe très vite. Je me disais, vous êtes un adepte de la phrase d'Alexandre Dumas qui disait qu'on peut violer l'histoire à condition de lui faire un enfant.
Oui, c'est un peu brutal, surtout de nos jours, de violer l'histoire.
Oui.
Non, je pense que l'Uchronie... Alexandre Dumas n'écrivait pas d'Uchronie, hein, c'était des romans historiques.
Bien sûr.
Là, l'Uchronie, c'est l'histoire telle qu'elle aurait pu être si un événement, si un grain de sable n'était pas venu la bousculer. Mmh.